Histoire.
Culture.
Culture.
Histoire.
Le billet était bref et laconique. Rendez-vous chez Aubert, demain midi. Gérard de Nerval me connaît bien pourtant. Je ne me lève jamais avant 2h. La chose doit être importante. Je m'y rends sans hésiter. Nerval est assis, à côté de Monsieur Aubert, un éditeur connu des pratiquants des sciences occultes. Il tire une troisième chaise et je prends place. La table est couverte du traditionnel tapis vert et un grand sac est posé dessus.
Nous allons jouer à la loterie, cher ami, dit-il en montrant du doigt le sac mystérieux.
Et quel est le gros lot ?
Le gros lot est un almanach que Monsieur Aubert édite. Nous l'appellerons, si cela vous convient, le Diable Rouge. Pas une ligne n'a été écrite et nous avons 4 jours pour mettre ce Diable Rouge sur pied. Nous nous y attellerons à 2, afin d'aller plus vite. Chacun se chargera d'une jambe. À vous la droite ou la gauche, à moi l'autre. C'est pour ce partage de besogne que je vous ai appelé si tôt. Dans ce sac se trouvent pêle-mêle des gravures sur bois autour desquelles nous écrirons nos proses. Plongeons donc, à tour de rôle, la main dans l'urne et chacun se chauffera du bois que le sort lui aura fait tirer.
C'est ainsi que cette entreprise folle se mise en place. Le Diable Rouge, almanach cabalistique pour 1850, fut tiré à 10 000 exemplaires et ils se vendirent comme des petits pains. Cet ouvrage sera notre fil conducteur et nous en visiterons la composition. J'adaptais légèrement les articles afin qu'ils se prêtent mieux à l'oral, mais tout d'abord, il nous faut présenter nos protagonistes. Le premier est Henri Delage, noctambule, théosophe, pratiquant des sciences occultes et homme apprécié par le Paris initié. Il n'a que 25 ans lorsqu'il partage avec Nerval la tâche d'écrire cet almanach. Voici comment Olympe Audouard, une occultiste, le décrit.
Grand, la taille élancée, avec une belle figure de Christ. Un Jésus attristé, un peu rêveur. Il porte les cheveux mi-longs, partagés sur le front. Il a été élevé à l'école des penseurs spiritualistes et il s'est habitué à écouter cette voix qui est en nous et qui nous révèle la vérité lorsque nous prenons le temps de bien l'écouter. On peut dire qu'il est né spirite. Il a gardé la ressouvenance des choses du monde immortel. Les titres de ses ouvrages parlent d'eux-mêmes. La science du vrai, ou les mystères de la vie, de l'amour, de l'éternité et de la religion dévoilée.
Le second de nos auteurs est Gérard de Nerval. Écrivain romantique par excellence, on l'appelait le fol délicieux. Son nom nous est bien connu, pourtant l'homme reste un mystère. Il est né Gérard Labrunie en 1808. Son père est médecin pour la grande armée, et sa mère meurt alors qu'il n'a que 2 ans. Il a donc vécu ses premières années chez son grand-oncle, qui exploitait un champ nommé Claude de Nerval. Il adoptera en 1832 le nom de ce champ pour pseudonyme. À 14 ans, Gérard entre au collège Charlemagne. Il y rencontre Théophile Gautier, avec lequel il se liera d'une amitié forte qui durera toute sa vie. Il débute sa carrière littéraire en publiant des poèmes et des ouvrages satiriques, critiquant volontiers l'Académie française, mais surtout recevant les félicitations de Goethe pour sa traduction de Faust. Alors que le peuple parisien monte aux barricades en 1830, Gérard, encore Labruni, participe à un autre combat. Il se range du côté de Victor Hugo lors de la bataille d'Hernani. Cette polémique centrée autour d'une pièce de théâtre oppose les partisans d'un théâtre classique aux partisans de la mouvance romantique dont Hugo est un des chefs de file. Il produit durant les années 30 de nombreux poèmes, pièces de théâtre et récits, mais surtout il écrit pour de nombreuses revues. Gérard passera même quelques nuits en prison, lui et son groupe de bohémiens s'étant fait arrêter par le guet pour cause de tapage. En décembre 1842, Nerval débute un de ses voyages les plus connus, son voyage en Orient. Il visite l'Égypte, le Levant, l'Anatolie et de nombreuses îles de la Méditerranée occidentale. Il publie son récit de voyage dans des revues, le tout étant mis en forme en un livre 10 ans plus tard. En 1853, il dit à son docteur qu'il a été initié par les Druzes lors de son voyage en Syrie. Mais cette anecdote semble difficile à croire, les Druzes étant une communauté qui ne s'ouvre que rarement aux étrangers. Il n'est pas étrange pourtant que Nerval soit intéressé à leur religion. Elle est connue pour ses caractéristiques ésotériques et syncrétiques. L'ésotérisme est au centre de la ville de Nerval. Dès son plus jeune âge, il a dévoré des bibliothèques entières, et nombre de ses ouvrages contiennent des allusions à ses lectures. Parfois sourcées, parfois pas. La cabale est un sujet qui le passionne particulièrement, et on retrouvera dans certaines de ses œuvres des rappels fréquents à l'Oedipus Aegypticus et à son auteur, Anastasius Kirchner, un jésuite allemand, et bien entendu, de très nombreuses références à d'autres écrivains ésotéristes. La religion aussi est un thème important. Alors qu'une mauvaise langue le traite d'athée, il lui répond « On dit que je n'ai pas de religion, mais j'en ai au moins 17. » Nos écrivains présentés, il est temps de rentrer dans l'œuvre. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un almanach ? C'est un livre censé être populaire, qui est produit annuellement et qui comporte des renseignements pratiques. Notre almanach à nous n'a été produit qu'une fois. Même s'il a connu un franc succès, il n'a pas été reconduit. Il contient un certain nombre d'informations pratiques pour l'année. Mais aussi, comme sa page de titre l'indique, il contient des tables cabalistiques, à l'aide desquelles chacun peut prévoir son avenir, ainsi que celui des autres. Même si on doute de l'efficacité d'un horoscope, il est indéniable que c'est un livre qui se veut avoir une utilité pratique. Cet almanach est composé ainsi. Il débute avec un calendrier assez classique, désignant les phases de la lune, les signes astrologiques, et l'heure du lever et du coucher du soleil. Il est suivi par quelques indications concernant les jours de grande marée, les fêtes annuelles mobiles et certaines informations importantes pour la pratique de l'occultisme. Il est suivi par l'article intitulé « Le Diable Rouge », dont nous parlerons tout bientôt, qui introduit un très court traité détaillant certaines pratiques occultes. La Kabbale y est décrite, mais ce traité occulte touche aussi aux prophéties, à la sorcellerie, à l'astrologie et au magnétisme. Mais arrêtons-nous un instant de plus sur le titre. Il a pour nom almanach kabbalistique. Il ne faut pas comprendre Kabbale comme un complot, comme l'usage moderne le veut, mais bien au sens hébraïque de réception. La Kabbale est une doctrine ésotérique juive. Elle a pour but d'aider ses pratiquants à découvrir les mystères de la création. Réappropriée par les ésotéristes occidentaux, elle se veut être un moyen de comprendre les mystères de la religion chrétienne, mais surtout être un moyen de mettre en lumière l'unité de toutes les religions monothéistes, tout d'abord, puis de toutes les religions humaines. Voilà comment elle est décrite par Henri Delage dans la section Traité des sciences occultes de notre almanach. La science de la nature, de ses révolutions mystérieuses, de sa puissance générative que l'on nommait alchimie ou philosophie hermétique dans le Moyen-Âge, était étudiée dans l'intérieur des pyramides, car c'est le grand Hermès Trismégiste, fondateur de la religion égyptienne, qui le premier l'a enseigné à l'homme. La science de l'homme, du mécanisme de sa pensée, des facultés de son âme, de sa puissance sur la nature, des phénomènes du monde sidérique, faisait l'objet des études des sages de l'Antique Orient, connus sous le nom des mages, et dont le mérite, au jugement de Saint Jérôme, fut de parvenir, grâce à une merveilleuse et sagace perspicacité, à la connaissance de l'essence des propriétés et des vertus occultes de chaque chose. Cette connaissance se nomma dans le Moyen-Âge magie et astrologie. Enfin, les lois qui régissent le monde invisible étaient connues de la plus haute antiquité, et leur connaissance se nommait Kabbale, ou tradition révélée. Moïse, suivant le témoignage de Saint Augustin et de Saint Clément d'Alexandrie, a composé ses livres suivant les principes de cette science, qu'il avait étudiée en Égypte. Les Écritures sont en conséquence un livre fermé de 7 sceaux pour le profane qui ne peut les ouvrir à l'aide de la clé kabbalistique. À l'homme qui n'a pas l'insigne bonheur de le posséder, le temple de la vérité est à jamais fermé et ne contemplera Dieu, son principe et sa fin, ni dans le temps, ni dans l'éternité. Voilà une description quelque peu ésotérique de ce qu'est la Kabbale. Mais Henri Delage la décrit encore mieux dans le prochain chapitre. Je cite. Le kabbaliste est pour l'époque moderne ce qu'était l'initié dans les temps antiques. Tous les hommes sont ses frères, et leur ignorance relative ne peut être pour lui qu'une raison de les instruire. Il est donc essentiellement cosmopolite et conciliateur. Il y a des temps où les idées religieuses s'obitèrent tellement dans les masses qu'il ne faut pas craindre de faire appel à la science conjecturale pour réveiller sous les cendres du vieil homme cette dernière étincelle qui suffirait à ranimer l'âme. Ce que les gens légers appellent fatalisme n'est au fond qu'une traduction du mot providence. Tous les grands hommes ont eu ce sentiment. Napoléon ne crut longtemps qu'à son étoile. Cette idée superstitieuse fut le germe de son retour à la religion. La Kabbale est donc la source de toute connaissance vraie. Elle nous vient des Égyptiens par l'intermédiaire de Moïse. Le terme de Kabbale ayant été éclairci, penchons-nous sur le personnage qui figure dans le titre, le Diable Rouge. Il est introduit ainsi. Ne vous effrayez pas de ce personnage plus rubicon que ténébreux. Tous les diables ne sont pas noirs. Celui-ci est, de sa nature, plutôt terrestre qu'infernal. Il a même pris part que médiocrement à la grande lutte qui eut lieu jadis dans les espaces célestes et qui fut nommée la rébellion de Satan et de ses anges contre Adonai, le Seigneur et les siens. Il n'y a donc pas qu'un diable dans cette cosmologie occulte. Satan et le diable rouge sont deux entités bien différentes. L'un est l'ennemi ultime de Dieu, alors que l'autre est vu comme un genre de Prométhée, apportant à l'humanité la lumière et la connaissance. Il est rentré malgré lui dans la conspiration de Satan et a reçu comme responsabilité d'être le chef d'artillerie du diable. Noir. Ce diable rouge serait-il un Bonaparte ? Dans tous les cas, il fut châtié sévèrement par Dieu pour avoir pris part à la conspiration de Satan. Il tomba sur terre, et nous pouvons le voir dans la Divine Comédie, où Dante et son guide visitent son corps. Pour les chrétiens, c'est le diable, mais pour les grecs, c'est un titan. Encelade, selon certains. Ce genre de syncrétisme sont nombreux dans l'occultisme occidental, toujours à la recherche de la vraie religion, cette vérité fondamentale qui se trouve à la source de toutes les religions. Ce pauvre diable n'est donc pas Satan, et Nerval, dans son introduction, tente de le réhabiliter. Le pauvre Lucifer est bien assez coupable aux yeux de certains gens, On l'accuse, avec quelque raison, de matérialisme, de communisme, et il est fortement suspecté de n'avoir pas été étranger aux événements de l'an dernier. Nous croyons que ses intentions étaient pures, que la malice naturelle aux hommes en a exagéré le résultat. C'est pourquoi nous demandons encore quelques bienveillances pour un être plus malheureux que coupable, qui participera sans doute à l'universelle amnistie réservée à tous les pauvres diables que cette doctrine ont égarés. Notre almanach poursuit avec une description de la doctrine des génies. Dans la première partie, l'auteur de ce chapitre nous décrit un type de génie particulier. Les esprits élémentaires tels que les ondins représentant l'eau et les salamandres représentant le feu. Ces génies n'ont pas été bannis de la terre lors de l'avènement du Christ, ils vaquent toujours à leur occupation. Contrairement aux dieux et demi-dieux, qui eux ont fui vers leurs astres respectifs, il est toujours possible d'user de leur pouvoir à ces dieux et demi-dieux en pratiquant l'astrologie et en créant une connexion envers ces astres. La seconde partie de la doctrine des génies concerne les génies angéliques, ceux qui nous intéressent. Ils sont au nombre de 72, chacun est attaché à un des 72 noms mystiques de Dieu et une des 72 nations de la Terre. Selon une doctrine occulte, chaque être humain possède 3 anges gardiens, le premier étant divin, le second astrologique et le dernier provenant des génies élémentaires. Le premier, le divin, influence l'âme, le deuxième, l'astrologique, influence le moral, et le dernier, l'élémentaire, influence la santé et les actions. Mais à quoi donc servent ces 72 génies? Eh bien, à déterminer votre propre horoscope. La couverture de l'almanach de 1850 se vend ainsi. Almanach kabbalistique, contenant le tableau des influences qui dominent sur le physique et le moral de l'homme, et la nomenclature des bons et des mauvais génies, accompagné des tables kabbalistiques, à l'aide desquelles chacun peut tirer son horoscope et prévoir son avenir, ainsi que celui des autres. Il est suivi de quelques tables contenant ces fameux génies, les dates et les heures où ils dominent, ce qui permet à tout un chacun de trouver qui sont ces anges protecteurs. Il suffit d'avoir sa date de naissance et son heure de naissance. Je me suis lancé dans l'exercice, et voici mes génies. Le premier est Elemeia. Il domine les voyages, les expéditions maritimes, et il influe sur les découvertes utiles. La personne qui est née sous cette influence sera industrieuse, heureuse dans ses entreprises, et sera passionnée pour les voyages. Le second de mes génies, c'est Hachiyuya. Ce génie domine sur les exilés, les prisonniers fugitifs, les condamnés Kutubas. Il empêche la découverte des crimes secrets, et ceux qui les ont commis échapperont à la justice des hommes, pourvu qu'ils ne retombent plus dans la même faute. Il protège contre les animaux nuisibles, et il préserve des voleurs et des assassins. Ceux qui sont nés sous cette influence aiment la vérité, les sciences exactes. Ils sont sincères dans leurs paroles et leurs actions. Le génie contraire domine tous les êtres nuisibles. Il porte les hommes à commettre des crimes et influe sur tous ceux qui cherchent à vivre par des moyens illicites. Le dernier de mes génies se nomme Menadel. Ce génie donne des lumières sur les personnes éloignées dont on n'a point reçu de nouvelles depuis longtemps. Il fait rentrer les exilés dans leur patrie et découvre les biens égarés ou distraits. Le génie contraire protège tous ceux qui cherchent à fuir à l'étranger pour échapper à la justice. J'espère que la police ne m'attend pas de l'autre côté de cette porte. N'attends pas que je finisse d'enregistrer cet épisode pour m'arrêter, moi qui suis entouré par de tels génies. Prenons la criminalité. Notre almanach se poursuit avec un autre horoscope, Do It Yourself. Cette fois-ci, il est basé sur la numérologie. Cette science occulte propose d'user du nom et prénom d'une personne afin de connaître son futur. Chaque lettre a une valeur, et la somme de toutes ces valeurs nous permet de découvrir les qualités que nous avons. La table de résultats ne semble pourtant incomplète, et je ne peux vous proposer le même jeu qu'auparavant, car je ne suis pas sûr comment analyser le résultat. On excusera volontiers un traité sur l'ésotérisme d'être un peu confus. L'ouvrage continue avec quelques articles présentant le mysticisme, le cultisme, et son rôle dans les grands conflits politiques qui animèrent le XVIIIe et XIXe siècle. Nous pouvons y voir quelques références aux francs-maçons, aux Illuminés, ce qu'on nomme Illuminati aujourd'hui, et à bien d'autres sociétés secrètes ou pratiques occultes et ésotériques. Afin de ne pas vous gâcher tout l'ouvrage, je n'en parlerai pas plus, et je vous recommanderai de le consulter, si vous voulez découvrir par exemple quelles sont les sources cachées de la franc-maçonnerie, selon Gérard de Nerval. L'ouvrage se termine avec une ribambelle de prophéties, les premières venant de Nostradamus, les autres de nombreux autres auteurs, dont Napoléon. Mais tiens, vu que nous parlons de Napoléon, voilà un des quatrains de Nostradamus le concernant. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher. Diront avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. Je ne suis pas homme à croire des prophéties, surtout qu'elles sont souvent usées rétroactivement, en montrant à quel point elles collent bien avec le passé, plutôt que proactivement, en montrant ce qu'il va se passer. Je dois toutefois avouer que cette dernière est bluffante. Nostradamus étant un monarchiste, est-ce que c'est une pique? Est-ce que c'est une vanne qu'il envoie à Napoléon à travers les âges, considérant que son entourage ne vaut pas mieux qu'un boucher? Malheureusement, il n'est plus là pour nous répondre, et tout ce que nous pouvons faire, c'est interpréter. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage à travers cet almanach, que j'ai réussi à amener un peu de lumière sur ces sciences occultes, et que je vous ai révélé certaines de ces doctrines ésotériques. Je tiens à ce qu'on se quitte sur le dernier paragraphe du Diable Rouge, qui doucement incite à rester un peu candide, mais surtout à rester curieux. Vampires et loups-garous. Aujourd'hui, de tels prodiges deviennent rares. La science perce à jour les mystères fondés sur la crédulité et l'illusion, ou bien les relègue dans ce monde poétique auquel appartiennent les merveilleuses ballades allemandes. S'il faut se garder des vieilles et mélancoliques superstitions de nos pères, il ne faut pas repousser toutefois les croyances fondées sur la providence, sur la destinée, et même sur certaines pratiques taxées de superstition par les sophistes. C'est pour eux qu'il faut répéter, une fois de plus. Un peu de philosophie éloigne de la religion, beaucoup de philosophie y ramène.